RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire à l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le vice-président Yusuf Kalla veut que les habitants le détroit de la zone à rester vigilants jusqu'au 26 décembre. Mettre l'accent sur l'évacuation des victimes et le nettoyage des ordures et des débris, a déclaré le ministre Basuki. L'aéroport à Tanatoraja sera achevé en 2019. Le président Jokowi a déclaré « L'aéroport soutient le développement du tourisme ». Le Parlement de la Nouvelle-Zélande ne va pas aider la Papouasie libre. L'ambassade d'Indonésie à Singapour a organisé une exposition sur les produits de PME indonésiennes. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne soutient l'existence de la loi sur la garantie des produits halal. Chacun nous présente maintenant le journal complet. Le tsunami qui a eu lieu samedi soir 22 décembre dans le détroit de la Sonde et dans le sud de Lampung a reçu une réponse directe du vice-président indonésien Yusuf Kalla. Lors d'une conférence de presse à l'aéroport Halim Perdana Kusuma à Jakarta dimanche, il a exprimé ses sincères condoléances aux victimes et aux personnes touchées par le tsunami. Yusuf Kalla a également exhorté le public à ne pas s'approcher de la côte ni dans la région du détroit de la Sonde parce que selon les informations de l'agence de météorologie, climatologie et géophysique, le mauvais temps va se produire jusqu'au 26 décembre. Selon lui, le tsunami est un événement inhabituel car il n'a pas été suivi d'un tremblement de terre.
Sampai dengan tanggal 26, cuaca akan jelek dan dalam kerangka cuaca jelek itu juga bisa.
Jusqu'au 26 décembre, le temps sera mauvais. Le mauvais temps peut également permettre des déplacements dus à l'éruption du mont Krakatau, selon une analyse de BMKG. Le vice-président Yusuf Kalla a ajouté qu'une équipe conjointe de l'armée nationale et la police nationale, y compris d'autres agents concernés, étaient déjà sur place après le tsunami pour apporter une assistance. Selon les données temporaires de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, lundi à 7h, heure l'Indonésie occidentale, 281 morts, 1016 personnes blessées et 57 disparus. Le ministre des Travaux et du Logement public, M. Basuki Hadimulyono, a déclaré que la principale priorité de la période d'urgence après le tsunami à Pandeglang, Banten et au sud de Lampung était d'évacuer les victimes et de sauver les survivants, de nettoyer les déchets et les débris et répondre aux besoins en eau potable et en assainissement des réfugiés pour les 7 prochains jours. Comme cité par Antara, le ministre Basuki lors d'observer l'un des dommages les plus graves à Mutiara Charita Cottage de Mansour a déclaré qu'il s'agissait d'un événement rare parce qu'il n'y avait aucun tremblement de terre, mais un tsunami avait eu lieu et une enquête était en cours. En termes d'infrastructures, les infrastructures ne sont pas beaucoup affectées. Le ministre Basuki a déclaré que si une roue était coupée, alors selon la norme, la récupération du trafic sera effectuée au plus tard 7 jours. Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que le gouvernement envisageait d'achever la construction de l'aéroport de Tana Toraja en 2019. Selon lui, le processus de construction de l'aéroport a commencé et devrait accueillir les passagers régionaux des avions à courte distance. Cela a été transmis par le président Joko Widodo après avoir assisté à la célébration de décembre et Noël au Kumeni dans le district de Tana Toraja dans le sud de Sulawesi dimanche.
Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, ke Pak Gubernur bahwa insya Allah tahun depan.
Je dis aux régions, au gouvernement que l'aéroport ici serait achevé. L'aéroport devrait être en compétition à Tana Toraja l'année prochaine. C'est déjà commencé, environ 20 jusqu'à 30%, de sorte que l'avion ATR peut atterrir ici. Le président a également déclaré que le tourisme à Tana Toraja avait ses propres caractéristiques par rapport à d'autres touristes régionaux. Selon lui, le tourisme à Tana Toraja est fortement soutenu par la richesse culturelle de Tana Toraja. Par conséquent, il espère que le développement du tourisme à Tana Toraja pourra être développé si la construction de l'aéroport est achevée en 2019. Le président Joko Widodo a déclaré que la construction d'infrastructures aéroportuaires et son expansion des terminaux aéroportuaires contribueraient au développement du tourisme dans la région. C'est ce qu'a déclaré le président après avoir inauguré symboliquement les terminaux à l'aéroport Syukuran Aminuddin Amir à Lubuk dans l'urgence de Banggai, le Sulawesi central, le dimanche 24 décembre. Selon le président, plusieurs aéroports qui ont été construits visent à soutenir le tourisme, faciliter la mobilité logistique, le trafic de marchandises et de personnes, l'expédition de fret, afin d'arriver rapidement à destination, parce que la livraison logistique est la plus importante en ce moment. En outre, le président Joko Widodo espère également que l'ajout d'aéroports dans les régions d'Indonésie renforcera le pays. Il est arrivé à Lubuk pour inaugurer symboliquement 5 terminaux aéroportuaires et un nouvel aéroport, Syukuran Aminuddin Amir, dans la ville de Lubuk. Nouvel aéroport qui a été inauguré, à savoir l'aéroport de Morowali, dans les régions de Morowali, le centre de Sulawesi. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Tanto Wiyahya, l'ambassadeur d'Indonésie en Nouvelle-Zélande, a dit que les législateurs de la Nouvelle-Zélande ont déclaré qu'il ne soutiendrait pas le mouvement de libération de la Papouasie. La déclaration a été prononcée par une porte-parole de la députée de la Nouvelle-Zélande, Louisa Wall, lors d'une réunion avec le leader de la communauté papou, Franz Albert Yoku, à Wellington récemment. Yahya a déclaré que Louisa Wall, qui appartenait au Parti travailliste, lors de la réunion avait apprécié toutes les explications fournies par le chef de représentant officiel indonésien. On a conclu qu'il était inutile de soutenir le mouvement activiste de la Papouasie libre, y compris les efforts pour inclure la Papouasie dans la liste de la décolonisation aux États-Unis. Les membres du Parlement ont déclaré, ont promis d'aider le gouvernement indonésien à accélérer les progrès dans tous les domaines en Papouasie. L'ambassade d'Indonésie à Singapour, en collaboration avec le Centre national du dessin et le Musée des civilisations asiatiques, ont organisé R.I. Singh Design Bazaar, une exposition de produits dessinés aux petites et moyennes entreprises ou PME d'Indonésie, qui a eu lieu à Empress Place pour ouvrir l'accès au marché à Singapour et au marché mondial. L'exposition de produits de PMO indonésienne, qui s'est déroulée du 21 au 23 décembre 2018, était l'engagement de l'ambassadeur d'Indonésie à Singapour, Ngurah Swajaya, d'encourager l'accès au marché des produits de PME, promu par la Banque indonésienne et le ministère du Commerce. L'ambassadeur Ngurah Swajaya a souhaité que cette exposition puisse également être utilisée pour établir une interaction et une coopération durable. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, ou KADIN, soutient l'existence de la loi sur la garantie des produits halal qui a signé un mémorandum d'accord avec plusieurs parties concernées. Le président du comité permanent au Moyen-Orient et de l'Organisation de coopération islamique de KADIN, Fahri Taib, a déclaré dans une déclaration écrite à Jakarta que KADIN était un forum pour les organisations professionnelles en plus de socialiser et de soutenir l'existence de cette loi. KADIN fournit des informations au gouvernement afin que la loi sur la garantie des produits halal ne rencontre pas d'obstacles dans son application. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'Indonésie est-elle prête à faire face aux catastrophes ?» L'Indonésie est à nouveau en deuil. Après le séisme de Lombok, l'ouest de Nusa Tenggara, suivi du séisme et du tsunami à Palu et Donggala, Sulawesi Central, samedi 22 décembre, l'éruption du volcan Anak Krakatau situé dans le détroit de la zone a provoqué un tsunami qui a frappé l'extrémité occidentale de l'île de Java, les districts de Pandeglang et Serang, la province de Banten, et le sud de l'île de Sumatra, district de Lampung du Sud, la province de Lampung. Selon les données provisoires, jusqu'à lundi 24 décembre, à 7 heures locales, 281 personnes sont mortes, 1016 blessés et 57 disparus. Cette catastrophe a également causé des dommages aux bâtiments et infrastructures. L'Agence de météorologie, de climatologie et géophysique a confirmé l'événement était dû à l'activité volcanique provoquée par l'éruption du mont Anak Krakatau qui avait été vu avant l'éruption de samedi soir. Cela a été rappelé et cette montagne est en alerte depuis juin 2018. L'activité du mont Anak Krakatau a continué d'augmenter depuis le 18 juin 2018. De juillet jusqu'à novembre, les éruptions continuent de se produire. La dernière éruption a eu lieu le 22 décembre et provoqué le tsunami à Banten et Lampung. Le tsunami a fait la mort de centaines de personnes. Les catastrophes naturelles qui ont frappé ce pays n'ont pas rendu la nation indonésienne faible et désespérée. Les catastrophes doivent être faites face et surmontées pour que la nation indonésienne devienne de plus en plus forte face aux plus grands défis à l'avenir. Vous pouvez peut-être prendre l'exemple du Japon, qui reste un pays développé, bien qu'il soit souvent frappé par des tremblements de terre. Les catastrophes qui frappent l'Indonésie doivent être utilisées comme une leçon. Comment ont-elles été évitées et anticipées? L'Indonésie doit toujours être vigilante et se préparer à la possibilité de nouvelles catastrophes, entre autres en effectuant les simulations sur la façon de gérer afin que les gens sachent ce qu'il faut faire quand il y a des catastrophes. De plus, l'équipement pour un système d'alerte précoce doit être préparé afin que la communauté et le gouvernement local puissent se connaître et se sauver avant une catastrophe. On souhaite que cette méthode puisse réduire le nombre de victimes. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 24 décembre 1906, Reginald Fessenden a diffusé la première émission radiophonique de Brain Rock aux États-Unis. Reginald Aubrey Fessenden est l'une des nombreuses personnes qui ont contribué au développement de la technologie de radio. Il était l'un des fondateurs de la radio, physicien américain, ingénieur et professeur de physique. Le 24 décembre 1906, grâce à ses découvertes et à ses expériences, est enfin en mesure de diffuser la première émission radiophonique de Brain Rock aux États-Unis. Le 24 décembre 1953, la catastrophe de Tangiwai. La catastrophe de Tangiwai s'est passée le 24 décembre 1953 lorsque le pont de la rivière Wangaihu s'est effondré sur le train de voyageurs numéro 626 reliant Wellington à Auckland à Tangiwai au centre de l'île Nord en Nouvelle-Zélande. La locomotive et les 6 premières voitures se sont glissées dans la rivière, faisant 151 victimes. Le conseil d'enquête a constaté que l'accident avait été causé par l'effondrement du barrage Tepra situé près du pont. La catastrophe est devenue le pire accident de train en Nouvelle-Zélande. Le 24 décembre 1999, le vol 814 de l'Indian Airlines a été détourné. Le vol 814 Indian Airlines est un vol partant de l'aéroport international Tibhuvan de Kathmandu, Népal, vers l'aéroport international Indira Gandhi à New Delhi. Le 24 décembre 1998, 5 ressortissants pakistanais ont détourné l'avion. Des pirates armés l'ont détourné dès que l'avion est entré sur le territoire indien. Après avoir atterri à Amritsar, Lahore et Dubaï, les pirates de l'air ont forcé l'avion à atterrir à Kandahar en Afghanistan. Le pirate de l'air a libéré 27 des 176 passagers à Dubaï, mais a tué quelqu'un et en a blessé plusieurs autres. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie contrôle officiellement 51% des parts de Freeport. L'Indonésie, par l'intermédiaire de PT Inalum, est devenue officiellement l'actionnaire majoritaire de PT Freeport Indonesia. Le président Joko Widodo a déclaré dans un communiqué de presse à Jakarta vendredi que cette propriété serait pleinement utilisée pour la prospérité du peuple indonésien. Ce rapport garantit également que PT Inalum a remboursé l'achat de 51,23% des actions de PT Freeport Indonesia d'une valeur de 3,85 milliards de dollars américains. En outre, tous les problèmes liés à l'environnement et à la fonderie qui étaient devenus des obstacles avaient été résolus et convenus. Le chef de l'État a affirmé que les revenus des taxes et redevances augmenteraient certainement. Pas moins important, le peuple papou dispose également d'une part des différents avantages qu'il obtiendra. Les communautés de Papouasie obtiendront également 10% des actions existantes. Bien sûr, la Papouasie recevra également des taxes locales. Conformément à l'accord conclu dans Head of Agreement ou l'accord principal, Inalum a versé 3,85 milliards de dollars américains, soit environ 56 triliun rupiah à Freeport McMoRan Insurance ou FCX pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société minière. Grâce à cet accord, l'Indonésie a désormais le contrôle des réserves prouvées et probables du CHUM de PTFI d'une valeur approximative de 2400 triliun rupiah. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani, a déclaré qu'elle s'efforcerait de garantir le revenu de l'État auprès de PT Freeport Indonesia soit encore plus grand après la fin du processus de transfert des parts majoritaires ou des investissements au groupe minier de PT Inalum. Les recettes fiscales et les recettes non fiscales sont plus grandes pour l'État, quelle que soit la valeur des prix du cuivre et de l'or. Sri Mulyani expliquait que toute la composante globale des recettes fiscales et non fiscales utiliserait l'article 169 de la loi sur l'exploitation de mines et de charbon, à savoir que les recettes de l'État doivent être supérieures. Elle a expliqué qu'un tel système pourrait apporter une certitude en termes d'acceptation à l'État. Pendant ce temps, le président directeur de PT Freeport McMoRan, Richard Atkerson, a déclaré que son objectif était de terminer la construction d'une fonderie en 5 ans. Après avoir rencontré le président Joko Widodo au Palais Merdeka, Jakarta, Richard a déclaré qu'il construisait une fonderie conformément aux attentes du président. Selon Richard, la collaboration a eu un impact positif sur l'Indonésie et PT Freeport. Il a remercié le gouvernement indonésien d'avoir trouvé une solution commune. En outre, Richard a expliqué que sa partie commencerait l'exploitation ouverte. Richard a également expliqué qu'il avait eu un dialogue avec le président Jokowi concernant le développement des activités minières, les zones d'emploi ainsi qu'une meilleure gestion de l'environnement naturel. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est un moment pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le magazine culturel. Pesona Indonesia.
Serviteur, bonsoir. Bienvenue au magazine culturel, un programme quotidien sur les arts, les alimentations, la culture et le tourisme dans toutes les régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Tombak Sulu Sulu dans le nord de Sumatra. Restez à l'écoute. Serviteur, Tombak Sulu Sulu dans le village de Marbun, sous-district de Bakti Raja, la réserve de Humbang Hasundutan, au nord de Sumatra, serait le lieu de naissance d'un héros indonésien nommé Raja Sisingamangaraja XII. Ce site est digne d'entrer dans le patrimoine culturel car c'est la signe de l'ancienne civilisation. En outre, Tombak Sulu Sulu présente de nombreux aspects liés à la socioculture, à l'histoire qui peut être représentée à travers la figure de Sisingamangaraja XII et au tourisme géopark. Tombak Sulu Sulu est une petite forêt située dans le sous-district de Bakti Raja, dans la réserve de Humbang Hasundutan, au nord de Sumatra. Tombak en langue Batak signifie forêt, tandis que Sulu Sulu signifie torche. L'endroit s'appelle Tombak Sulu Sulu car c'est une forêt qui a des arbres luxuriants au milieu du village. En outre, selon la légende locale, il y aurait dans la forêt une cachette de Raja Sisingamangaraja dans le passé. La petite forêt située sur une colline rocheuse en Gribakara, nom d'une région, est composée de divers arbres et arbres. L'un d'entre eux est l'arbre Hausanka Madiha. Selon la légende locale, il y avait un lac appelé Aik Manuruk. Cependant, le lac a séché maintenant. Au milieu de la forêt, il y a une grotte rocheuse qui serait le lieu où Raja Singamangaraja a exécuté un rituel appelé Martongo ou faisant des supplications et méditer. Tombak Sulu Sulu, situé dans le sous-district de Bakti Raja, n'est pas le seul patrimoine culturel à découvrir dans la région. Outre Tombak Sulu Sulu, il existe d'autres sites historiques laissés par l'empire Sisingamangaraja que l'on peut encore découvrir au village de Lumban Raja. Les sites historiques comprennent des sépultures, des bains, un palais et une maison traditionnelle qui ont été bien préservés jusqu'à aujourd'hui. Le sous-district de Bakti Raja se trouve à 22 km de Dolok Sanggul, capitale de la résidence de Humbang Hasandutan. Cette résidence est accessible environ 5 et 6 heures depuis Medan, la capitale de la province de Sumatra du Nord. Les visiteurs peuvent assister au panorama remarquable sur le lac Toba de toutes les directions lors de leur visite à la résidence Humbang Hasandutan. Serviteurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Tombak Sulu Sulu dans le nord de Sumatra. Merci d'être fidèle avec nous. À demain avec d'autres sujets intéressants.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Pukul berapa ?» ou en langue française « À quelle heure ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Pukul berapa ou en langue française à quelle heure? Chez Joko, Dinda et Tony parlent de l'expérience de Tony en voyant le lever du soleil depuis le sommet du temple Borobudur.
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir pukul berapa? Pukul berapa? En français, à quelle heure? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? En français, hier de l'hôtel, à quelle heure êtes-vous allé au temple? Pukul 4:30. Pukul 4:30. En français, à 4:30. Kira-kira pukul 4:30 pagi. Kira-kira pukul 4:30 pagi. En français, vers 4:30 du matin. 30 menit. 30 menit. En français, 30 minutes. Tiba. Tiba. En français, HKB. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak Candi Borobudur. En français, 30 minutes plus tard, je suis arrivé au sommet du temple Borobudur. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih matahari keluar dari balik pegunungan. À 5 heures plus, le soleil sort de derrière la montagne. Indah sekali. Indah sekali. En français, très belle. Dans une conversation entre Dinda et Tony, lorsque Dinda demande sur le départ de Tony au temple, Tony répond kira-kira pukul 4:30 pagi. Kira-kira pukul 4:30 pagi. En français, vers 4:30 du matin. La phrase pukul 4:30 pagi a la même signification que pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menit. En français, à 4:30. Il existe plusieurs expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer le temps. L'exemple de l'utilisation dans la phrase pukul 4 lebih 30 menit. Pukul 4 lebih 30 menit. En français, à 4:30. Pukul 4:30. Pukul 4:30. En français, à 4:30. Pukul 4:30. Pukul 4:30. En français, à 4:30. Dans une conversation informelle, le mot menit, en français minute, parfois n'est pas mentionné. Ensuite, Tony a dit, 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. En français, 30 minutes plus tard, je suis arrivé au sommet du temple Borobudur. D'après l'expression de Tony, une autre façon de mentionner le temps est de dire durée, suivi du mot kemudian, kemudian, en français, plus tard, ou sebelumnya, sebelumnya, en français, avant. Par exemple, saya pergi pukul 6. Saya pergi pukul 6. En français, je pars à 6 heures. 30 menit kemudian, saya tiba di sana. 30 menit kemudian, saya tiba di sana. En français, 30 minutes plus tard, j'y suis arrivé. Trois exemples. Saya pergi pukul 7. Saya pergi pukul 7. En français, je pars à 7 heures. Satu jam sebelumnya, saya berolahraga. Satu jam sebelumnya, saya berolahraga. En français, une heure avant, j'ai exercé. Serviteur, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul 4:30 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak Candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous présenter les chansons de Keroncong chantées par Mus Mulyadi. Comme l'ouverture, je vous présente une chanson de Keroncong dont le titre est Kota Solo, ou en français, La ville de Solo. Thank you. Chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Kota Solo, ou en français la ville de Solo, l'une des villes de la province de Jaffa Central. Solo a diverses attractions, non seulement la rivière de Bengawan Solo, mais également la beauté ainsi que la richesse de l'art et de la culture d'origine qui sont conservées jusqu'à maintenant. Cette chanson est l'un des succès de Mus Mulyadi. Mus Mulyadi est né et a grandi à Surabaya, Java de l'Est. Son talent artistique grandit autodidactement grâce à sa famille. Ses trois frères sont aussi les chanteurs. Sumiati, sa sœur, est chanteuse de kroncong aux Pays-Bas. Son frère Mulyono est chanteur de kroncong à Surabaya. Et Mus Mujiono, son frère aussi, est chanteur de jazz et pop. Ensuite, écoutons une autre chanson de kroncong intitulée Irama Malam, qui signifie rythme de nuit. Bonne écoute!
Bye.
Écoutez la chanson chantée par Mus Mulyadi, intitulée Irama Malam, ou en français Rythme de nuit. C'est une chanson qui raconte de la beauté de la nuit accompagnée par le rythme de nuit, comme un ange qui fredonne le rythme de la tristesse et de la joie en alternance. Chers auditeurs, dans sa jeunesse, Mus Mulyadi a formé un groupe dont le nom est Irama Puspita. Avec ce groupe de musique, Mus Mulyadi travaillait pendant 2 ans à Singapour. Non seulement des chansons de Kroncong, Mus Mulyadi chante également des chansons javanaises. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'édition du magazine musical aujourd'hui. Je vous donne 2 chansons de Mus Mulyadi, dont le titre sont Jauh Sudah, qui signifie déjà loin, et Betapa Hatiku, qui signifie quel mon cœur. Bonne écoute et à bientôt.
Thank you.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Berarti tubuh persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Dewi murni berkembang
C'était notre blog pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.